Un grand.
El Madrid puede empatar. Ojo el córner. Ahora lo mete directo. Ahí está Modric. El remate.
Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue, vous écoutez le podcast de Real France, la seule émission qui ne parle que du club vainqueur de l'édition 2022 de la Super Coupe d'Espagne. Après s'être imposé face au Barça en demi-finale, le Real est venu à bout de l'Athletic Club ce dimanche par le score de 2-0. Pour le Real en 3 éditions de ce nouveau format de la Super Coupe d'Espagne et premier titre donc de la saison. On commence donc très bien cette année 2022. Et avec moi donc pour revenir tranquillement sur cette finale, sur ce premier succès, Axel est avec nous. Salut Axel.
Salut tout le monde.
Et un invité, un auditeur trouvé sur le gong dans le temps additionnel, Bilal est avec nous. Salut Bilal.
Bonsoir à tous.
Tu viens d'où Bilal?
Je viens de Paris dans le 17e. Je suis très heureux de cette victoire en finale. Premier titre et j'espère qu'il va en annoncer de nombreux.
Non, tu as quel âge?
28 ans.
C'est qui ton joueur préféré, ta légende préférée au Real?
Légende, je dirais Zidane. Actuellement, le préféré, je pense, comme beaucoup de Madrilènes, c'est Modric.
Ok. Ouais, ça doit se taper entre Modric, Benzema.
Même les techniciens par ici.
Ouais. on ne perd pas les bonnes habitudes. Hein, on balance son petit pouce en haut sur YouTube et j'en profite une nouvelle fois. Vous pouvez noter les joueurs du Real sur l'application Real France, mais aussi sur le site web. Réactions et autres à retrouver également sur le site real-france.fr après le match. Rentrons donc dans le vif du sujet. Bilal, je vais commencer par toi. Ton petit ressenti là à chaud 15-20 minutes après le coup de sifflet final et donc cette victoire.
Et donc, le match, je l'ai trouvé plutôt maîtrisé de la part du Real Madrid. Comme je vous ai dit, j'espère que ça va créer une dynamique pour que le Real aille au bout en Liga et aille le plus loin possible en Ligue des Champions. Je pense que c'est principalement l'enjeu de la Super Coupe d'Espagne. C'est pas le trophée le plus rutilant qui existe, mais c'est important de la gagner pour créer une dynamique, comme je l'ai dit.
Et toi, Axel?
Ouais, je rejoins un peu Bilal sur le côté de la gestion du match. Il y a eu pas mal de frappes de l'Athletic Bilbao, mais au final, on a une très bonne gestion de la partie. On ne s'est pas fait peur, à part ce premier ballon un peu compliqué à gérer pour Courtois là, de Vinicius. Mais non, globalement, on n'a pas été inquiété. On a su gérer le match une fois qu'on a fait le break. On a reculé, mais sans non plus trop subir. Donc non, une prestation aboutie, un résultat assez logique finalement.
Ok, salut à tous hein, dans le chat. Je vois que vous arrivez là progressivement. Salut Olivier, salut Paz, les habituels. Salut Sidi, salut Cyril, salut à tous. Si on prend un petit peu la chronologie du match, déjà revenons un peu sur le 11 de départ. Axel, donc on a du Courtois, du Lucas Vázquez à droite. Militao, Alaba, qui est de retour dans le 11, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrigo à droite, c'était attendu aussi, Vinicius et Benzema, pas vraiment de surprise, même s'il y avait quand même un petit doute par rapport à Alaba.
Ouais, voilà, c'est ça, le 11, c'est celui auquel on s'attendait un petit peu, et oui, finalement, Alaba, du coup, qui est là, je crois qu'il a repris l'entraînement avec le groupe hier, donc un peu pareil, il nous a fait une Bilal un peu la dernière minute, il arrive à 6C pour jouer cette finale. On reviendra dessus, mais je ne l'ai pas trouvé totalement en forme. On sent qu'il manquait un tout petit peu de rythme, qu'il a raté qu'il revenait de blessure. Mais globalement, non, comme on a dit, ça a été assez solide. Donc il a fait le taf et le reste du 11, on s'y attendait.
Bilal, pas.
Sur le 11, pas de surprise sur le 11 avec Ancelotti. Honnêtement, on a tous pu, je pense, le faire une fois qu'on a eu la confirmation du forfait d'Asensio. Et je suis très heureux du retour d'Alaba dans l'équipe, je trouve qu'il amène beaucoup du calme, d'expérience, et c'est vraiment une excellente recrue.
Vous n'avez pas eu une petite incertitude quand même sur le côté droit? Parce que moi je me demandais quand même, j'imaginais déjà le retour d'Alaba dans le 11, et de ce fait-là je me disais sur une finale comme ça, sur, Sur une finale, je me disais que peut-être Carlo aurait pu tenter Nacho à droite pour vraiment sécuriser le côté droit parce que Lucas Vasquez est bien moins solide défensivement que Nacho. Donc même par rapport à ça, vous n'avez pas eu de doute, Axel?
Non, j'avoue que je me suis pas trop posé la question. C'est vrai que le couloir droit, j'ai directement pensé à Lucas Vasquez, alors que Nacho avait évolué sur ce côté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai, ouais, je me suis pas posé la question. Pour moi, Lucas Vasquez était directement dedans. Au final, il a fait son match lui aussi. Donc ouais, non, pas trop de doute sur ça.
Ok, ça reprend un peu la chronologie du match. Je trouve, Bilal, que le Real est rentré très bien dans son match.
Je suis absolument d'accord avec toi. Beaucoup de contrôle au milieu de terrain. Toujours le trio magique avec Casemiro, Kroos, Modric. Beaucoup de mouvements. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais la première mi-temps de Rodrigo, pardon, je l'ai trouvé vraiment très bonne. Beaucoup plus tranchante que d'habitude, je trouve. Souvent, il est un peu tendre et il nous laisse un peu toujours sur notre faim. Là, j'ai trouvé vraiment bon dans ses choix, dans ses mouvements. Très, très surpris, mais de manière agréable par Rodrigo.
Ouais, totalement, c'est ce qu'on se disait nous en interne un petit peu à la mi-temps quand on est discuté entre nous. C'est vrai que Rodrigo, pareil, j'ai juste ressenti aussi où pour la première fois depuis un certain temps, voire peut-être la première fois depuis qu'il évolue à droite, il était assez sûr de ses forces, il n'a pas hésité à provoquer pour provoquer. On sentait qu'il était aussi à l'aise que s'il avait été à gauche, alors que d'habitude c'était timide, il prenait les mètres, puis il cherchait directement la passe vers l'arrière, alors que là, non, on sentait qu'il y avait une vraie intention de jeu. Essayer de faire reculer le bloc pour chercher une passe en retrait, ce qui a marché sur l'ouverture du score. Donc ouais, Rodrigo a marqué quelques points et je pense que cette rivalité qui peut y avoir, évidemment très saine, hein, rivalité au sens du terme, mais très sain avec Asensio sur ce côté, peut porter l'équipe sur la deuxième saison là, à un poste où on l'avait déjà dit, pardon, lors des podcasts. C'est un des postes où il y a encore une place à prendre puisque personne s'est vraiment installé dessus.
Okay. J'avais quand même deux dangers sur la première période côté Real. Alors la première, c'est Iñaki Williams qui était quand même pas très loin de toucher le ballon, d'emmener le ballon et d'éliminer Alaba et de partir plus ou moins seul au but. L'autre situation, c'est cette main de ce même David Alaba dans la surface. Bilal, penalty ou pas pour toi?
Pour moi, pas penalty. Il me semble que la réglementation a évolué sur ce sujet. Et ça me fait penser à la main qui avait été non sifflée sur un match contre le Betis Séville il y a quelques mois de cela. Donc, j'aime pas trop commenter l'arbitrage en général. Je trouve que dans une saison,
Ça s'équilibre.
ça s'équilibre absolument et c'est toujours un peu ridicule de crier au complot. Mais pour moi, pas penalty. L'arbitre a bien fait son travail.
Toxel.
Ouais, bah c'est clair que c'est l'interprétation de chacun. Moi, c'est vrai que dans la mesure où le nôtre est sifflé, pour moi, je sifflais celui d'Alaba également, sur la main d'Alaba. À partir du moment où il n'avait pas sifflé celui-ci, c'était vrai que c'était compliqué de siffler celui de Bilbao. Du moins, au moins, checker à la VAR sur l'action d'Alaba, parce que c'est vrai que c'est ce qui était le plus étonnant, à la limite, c'est qu'il n'y ait pas eu d'appel de la VAR ou de demande à ce que l'arbitre central aille voir la vidéo. Donc après voilà, comme Bilal l'a dit, c'est pas en reparlant d'arbitrage qu'on va refaire le match. Mais c'est vrai qu'un penalty aurait pas forcément été non plus une escroquerie, je pense.
Ouais, si on le met un peu en parallèle avec le penalty, le premier, enfin oui, le penalty qui a été accordé pour le Real, en fait, c'est plus un peu le jugement qui est un peu étonnant. C'est-à-dire que sur le premier, il va même pas revoir la VAR, alors que
C'est ça.
sur le deuxième, enfin sur le penalty pour le Real, là, il va voir la VAR et il siffle immédiatement. Bon, c'est vrai que moi je pense que les décisions de ces deux situations auraient dû être en fait communes. Voilà, peu importe dans quel sens, parce que je pense que les deux peuvent se siffler et pas se siffler. Mais je pense que la décision aurait été plutôt commune, plus logique selon moi. Voilà. Mais après, comme dit Bilal, je suis d'accord avec toi. Et puis de toute façon, c'est vrai qu'on parle aussi très peu d'arbitrage dans cette émission parce que ça n'a pas tellement d'intérêt. Et puis après, on va pas se mentir non plus. Tant que supporter du Real Madrid, on est rarement lésé historiquement par l'arbitrage. Voilà, faut pas se mentir non plus. Même si on n'est pas non plus aussi avantagé que certains aiment bien le faire penser. Dire. C'est Gérard Piqué. Au niveau des réactions, donc on a Abou qui dit l'inquiétude, c'est la charnière centrale. Faut pas oublier en Ligue des Champions, c'est Messi, Mbappé et Neymar en face. Bon match de Vasquez pour Paz, déçu, Cazar n'est pas joué, c'est assez énervant de la part d'Antiotti pour Wafga. Cette règle de main involontaire n'est pas claire, dit Patrick, je suis assez d'accord avec lui. On peut avoir l'avis de Piqué sur les pénaux pour Olivier. Pour moi, il y avait pénaux pour Bilbao, dit Donde. Voilà, bon, ce sont des situations de façon. Même entre nous, on n'est souvent pas d'accord, donc ça montre bien à quel point c'est compliqué de juger. Donc après ce 2-0 pour le Real, on a un match qui est plutôt maîtrisé derrière, jusque 86e minute de jeu. Et donc cette main de Eder Militao, ce carton rouge, ce penalty. Et là, Thibaut Courtois entre en scène, Bilal.
Oui, en plus, il était souvent critiqué, Thibaut Courtois, sur les pénaltys. Je ne sais pas si vous vous rappelez à son arrivée et même sur la saison d'après. Il y avait des stats comme quoi il ne sortait pas un péno. Là, déjà, contre le Barça, il le sort. Enfin, il se prend le but derrière, mais. Non, c'était contre Valence, pardon. Le pénalty de.
Guedes.
Absolument, de Guedes. Enfin, il arrête, pardon. Il y a but tout de même derrière. Et on sent qu'il a beaucoup progressé sur l'exercice et c'est absolument. Il est absolument impressionnant, Courtois, de toute façon, depuis le début de la saison. Vraiment, il ramène un nombre de points incalculable. Je trouve qu'on ne le souligne pas forcément assez. Son rôle est vraiment capital dans la saison du Real.
C'est ce qu'on nous disait encore mercredi. C'est vrai que mercredi, encore, il fait son match. C'est à chaque fois le gardien de but, c'est un peu un poste ingrat. Hein. C'est même le poste ingrat au football. C'est un poste où, quand tu fais les arrêts qu'il faut, on te cite en petite mention, mais quand tu fais une boulette, tu fais les gros titres. Effectivement, ce soir, c'est la belle occasion de rendre une fois de plus hommage à Thibaut Courtois qui est absolument hors norme depuis deux bonnes saisons sans aucun problème et qui rapporte beaucoup de points au Real, notamment en championnat. Axel, peut-être une réaction sur Courtois.
Ouais, simplement que moi, là où je trouve encore plus bluffant, parce que à force, comme tu dis, ça fait au moins deux bonnes saisons qu'il est très 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 bon. Là où je le trouve très bluffant, c'est le fait qu'il y a pas mal de matchs, contrairement aux dernières années, cette saison, où il a pas grand chose à faire, où il pourrait être un peu endormi, et pourtant il te sort des arrêts vraiment phénoménaux en général. Alors que c'est le seul arrêt qu'il va avoir faire du match. Et pourtant, il te le sort. Et à chaque fois, il répond présent, il reste concentré. Malgré le fait que des fois, il passe pas un match sans avoir un tir cadré.
Je suis absolument d'accord avec toi. C'est le plus dur, je trouve, pour un gardien, comme tu dis. On te sollicite deux fois par match. Et sur ces deux occasions, tu dois être parfait.
Alors que, par exemple, comparativement à la saison dernière, on sentait que par moment, le Real avait de gros passages à vide défensifs. Il était capable de te sortir 5-6 arrêts décisifs sur un match où il était beaucoup sollicité. Alors que cette saison, défensivement, c'est vrai qu'on est costaud. Il a moins de travail à faire.
Pas en début de saison. En début de saison,
oui,
d'ailleurs,
saison,
c'est le cas.
Ouais, en début de saison, quand notre défense se cherchait encore un petit peu, qu'il n'y avait pas forcément les automatismes, c'est vrai qu'il était dans la continuité. Mais là, même un peu moins sollicité, il sort toujours les arrêts qu'il faut. Non, il n'y a rien à dire, il est impeccable.
On a Xenanort, pardon, qui nous demande si Militao va être suspendu pour la Liga. Il me semble que oui, en tout cas en Coupe du Roi ça marche comme ça.
Ouais, il me semble aussi.
Il me semble aussi, ouais.
Donc je pense oui que Militao va être suspendu pour au moins le prochain match de championnat, ouais, effectivement. Oui, c'est ça. À moins qu'il prenne même plus de matchs, mais bon, je pense pas non plus, même si c'est un rouge direct, c'est. Reste un.
Et ouais, parce que ça, à voir quand se déroule la commission, parce que est-ce que ça serait pas applicable à la Copa aussi pour jeudi?
Ah, c'est possible. Hein.
Ouais, peut-être parce que ça doit être début de semaine, je pense. Enfin, à voir, ouais.
À confirmer, c'est une bonne question, ouais. En tout cas, on donnera l'info sur les réseaux quand elle tombera, mais oui, je pense que c'est bien possible que la sanction se répercute sur. Je suis même sûr que la sanction va se répercuter sur le prochain match, la prochaine compétition, je pense. Pas de doute là-dessus. Sinon, ce serait beaucoup trop facile, d'ailleurs. D'ailleurs, on avait une remarque là sur la charnière Militao Alaba qui inquiétait notre auditeur. C'est Abou qui nous disait. Que son inquiétude se portait là-dessus. Bilal, t'es inquiet là par rapport à la charnière du Real sur ces derniers matchs?
Alors, je fais partie de ceux qui ont trouvé Militao absolument impressionnant, même incroyable surtout 2021 d'ailleurs, quand l'an dernier c'était Iheanacho sur le début de l'année 2021. Sa première partie de saison en 2022, je le trouve très très bon, même extraordinaire. Là, c'est vrai que sur le début de l'année 2022, pas mal d'erreurs, pas mal de clôtis, je dirais. C'est dommage, mais bon, c'est un joueur encore très jeune, qui a une marge de progression absolument énorme. Je suis tout de même rassuré du rendement de la charnière Militao là-bas. Je suis convaincu qu'il va pouvoir se remettre la tête à l'endroit assez rapidement, Militao. Aujourd'hui, son match, pour moi, il est quand même bon, malgré son expulsion. Et le penalty, globalement, je trouve qu'il fait un match plutôt très très intéressant.
Axel ?
Ouais, je suis assez d'accord sur le fait de nuancer, parce qu'aujourd'hui, je l'ai. À la limite, à là-bas, ouais, comme je le disais en début de podcast, j'ai eu quelques doutes, mais Militao, aujourd'hui, je trouve qu'il fait son match dans un registre qui est un peu plus particulier que d'habitude. Parce que d'habitude, on sait que sa capacité de vitesse est souvent un très bon point pour lui pour prendre l'ascendance sur les attaquants. Aujourd'hui, il a eu du répondant en face avec Iñaki Williams, on le sait qu'il va très vite. Et il a quand même su le museler parfaitement, là où à là-bas, par exemple, a eu plus de mal quand Iñaki passait sur son côté. Donc non, aujourd'hui, Militao, ça va assez costaud. Après, c'est vrai qu'il a fait quelques erreurs sur les derniers matchs, mais bon, globalement, non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je trouve. La saison de la charnière centrale est quand même très, très positive jusque-là. À voir maintenant, on sait que là, c'est une nouvelle saison qui commence, et encore plus en février, quand la Ligue des Champions va reprendre.
On a Olivier qui nous dit, il a 23 ans les gars, Ramos, on a attendu ses 30 ans pour qu'il arrête les boulettes et les rouges inutiles. Je pense qu'on peut même dire que même après 30 ans, Ramos continue à faire de temps en temps une petite boulette. Après, la différence quand même majeure, on le voit sur les derniers matchs, c'est que Ramos, lui, ses boulettes, il ne les faisait jamais sur des gros matchs, sur des matchs décisifs, sur des grands matchs. C'était à chaque fois plutôt contre des Rétafé, comme Militao l'autre fois. Contre des Rétafé, contre des Elche, contre des Cadiz, où le gars jouait un peu les mains dans les poches, et c'est plutôt sur ces matchs-là qu'il faisait des erreurs, Ramos.
Ouais, c'est vrai que... Mais Ramos amenait aussi du charisme, du leadership. Il était beaucoup plus clutch que Militao, donc c'est incomparable. Mais c'est vrai, Olivier a raison. Ramos, le nombre de cartons rouges et d'erreurs bêtes qu'il a faites.
Voilà, bah bon, après c'est un gars qui compensait sans aucun problème, donc... Il réussissait toujours à se pardonner même au sein même d'un match. C'était ça surtout sa plus grande force, c'est qu'il pouvait faire une boulette qui provoquait le 0-1 pour l'adversaire, mais derrière il était capable de marquer un doublé. C'est ça qui était complètement irréaliste. Parce qu'il dit, je pense pas qu'il soit suspendu. Il y a quelques clubs, c'est pas comme la coupe. Slavzik nous dit non, car Gavi avait pris un rouge avant le Classico et avait quand même joué ce match. Après je crois qu'il y a une subtilité par rapport à ça, justement c'est les sanctions de la Liga se répercutent pas forcément sur les coupes, mais l'inverse existe, enfin, quelque chose comme ça, parce que étant donné qu'il y a moins de matchs de coupe, enfin c'est un point à éclaircir, on va pas davantage développer et dire des bêtises, mais je pense que sa sanction il la prendra sur un match Liga ou Copa, mais la sanction il la prendra. Vini do Brasil qui nous dit le match de Ferland Mendy est bon. Axel, tu l'as trouvé comment, Ferland ?
Ouais, Ferland, je l'ai trouvé bon, il a fait son match. Bon, offensivement, c'est toujours un peu timide, il n'a pas tant pesé, même s'il a toujours autant d'activité. Attention quand même, parce que des fois, je trouvais qu'il partait même un peu trop à l'abordage. D'ailleurs, la première action, première mi-temps, là où à là-bas, récupère Iñaki Williams de peu, ça se joue notamment sur ça. Il était parti assez loin de sa zone défensive. Mais aujourd'hui, non, encore défensivement, il a fait son match. Effectivement, de temps en temps, il se laisse pousser des ailes. Comme dirait Omar Da Fonseca, il a des crises de technicité. Mais non, défensivement, on sait que c'est une valeur sûre. Et voilà, on se répète, hein, mais offensivement, c'est là où il a encore une marge de progression intéressante à avoir.
Bilal ?
Ouais, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mendy, c'est toujours beaucoup d'activité, beaucoup de puissance, beaucoup de générosité. Et techniquement, parfois, il a l'air à la limite, notamment dans les sorties de balles. Et je ne sais pas si vous aussi, vous avez un peu peur parfois quand il revient à l'intérieur sur son pied droit.
Ah, souvent. Hein.
On est d'accord, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a une espèce de...
ah, ouais, ouais.
J'ai mon rythme cardiaque qui monte doucement. Et... ouais. Mais il s'en sort souvent. Et bon, quand il s'en sort, ça va. Mais je suis d'accord. J'en discute avec des amis. C'est vrai que techniquement, Ferland Mendy, qui, bon, après, on passe de Marcelo, forcément, peut-être pas, on parle peut-être du latéral gauche le plus technique de l'histoire et peut-être le meilleur de l'histoire. Donc, passer après lui, c'est toujours délicat comme comparaison. Mais offensivement, je suis d'accord, il manque un peu, tout petit peu de finesse technique parfois. Et je ne sais pas si vraiment il peut s'inscrire dans la durée avec le Real. Là où un gros point positif, je trouve, en revanche, c'est qu'il est très très peu blessé cette année. Depuis qu'il est revenu de blessure en automne, il a plus quitté le 11 et il a l'air de bien enchaîner les matchs. Bon, je pense que Pintus n'y est pas étranger, mais du coup, c'est plutôt encourageant là-dessus.
Bah, je pense que par rapport à la question de Mendy et donc de savoir s'il va s'inscrire ou pas sur la durée, je pense que ça dépendra toujours en fin de qui sera à la tête du Real Madrid. Dans un Real de Carlo Ancelotti et même de Zidane précédemment, par rapport à surtout sur son deuxième passage, ce sont deux équipes qui sont bâties avant tout sur la solidité défensive des équipes et sur la capacité à se projeter derrière, à jouer vite vers l'avant. Et étant donné, quand à partir de ce constat-là, les deux entraîneurs demandent avant tout aux joueurs de bien défendre, Ferland Mendy, on va pas se mentir, en tant que latéral gauche, je pense que c'est le meilleur au monde sur le plan vraiment défensif. C'est-à-dire qu'en 1 contre 1, le gars est absolument impassable. Franchement, combien de fois par match vous le voyez se faire dribbler? Quasiment aucune. Honnêtement, je pense que ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir la stat. Mais je pense que sur le début de saison, s'il s'est fait dribbler 10-15 fois, je trouve que ce serait déjà beaucoup.
Non, c'est sûr, t'as raison.
Non, et puis là où c'est important aussi, parce que tu dis Ancelotti, Zidane, effectivement, il comptait sur cette solidité défensive. Mais il y a aussi la question de la complémentarité qui va rentrer en compte à un moment. C'est vrai qu'on sent qu'avec Vinicius, il y a des automatismes qui sont nés, que les deux savent très bien évoluer ensemble, comment ça se déroule dans le couloir. Et Vinicius sait aussi que Mendy va pas être celui qui va poser galette sur galette dans la surface, mais qui sera toujours là dans son dos pour proposer ou créer un décalage. Et on sent que ça, il y a de plus en plus d'automatisme. Et à partir de là, et l'état de forme de Vinicius, même si ce soir il fait pas un gros match, je pense que Mendy, à cette allure-là, peut s'inscrire dans la durée, il n'y a pas de souci. S'il reste aussi performant défensivement, il n'y a pas de raison en tout cas.
Après, il va falloir aussi quand même qu'il développe...
Quelques
petits trucs au moins offensivement. Est-ce qu'il va avoir un pied gauche de velours? Je pense que ça c'est mort, mais par contre je pense qu'il peut quand même développer des choses. C'est un joueur qui est rapide, qui est puissant, il a quand même la capacité d'accélérer sur le côté gauche. D'ailleurs il l'a fait par exemple contre le Barça, voilà, où il élimine Dani Alves et qui sur un coup de rein il dépose quasiment toute la défense du Barça et il fait la diff. Ah, voilà, il a quand même de quoi se développer, et il va falloir qu'il se développe s'il veut s'inscrire dans la durée. Mais bon, je pense que oui, il en a la capacité, surtout si là le Real est parti sur quelques années avec Carlo, si derrière t'as à nouveau un profil, je sais pas qui, mais un Allegri par exemple, vu que c'était lui qui était courtisé avant Carlo, enfin.
Ah, s'il te plaît.
je c'est pas ce que je nous souhaite, mais bon, apparemment c'était lui quand même le numéro 1 à président pour la direction, enfin. Voilà, je pense que Carlos, Mendy, ça va surtout dépendre du coach, mais en tout cas, pour l'instant, il répond parfaitement à ce dont ce Real a besoin sur le plan défensif et de la solidité. Alors, deux, trois petites réactions là dans le chat. Benjamin qui me dit j'ai lu la règle, ce sera le prochain match quand tu as une suspension en coupe et tu es suspendu au prochain match officiel géré par la Ligue. Donc, coupe ou Liga. Donc, voilà. Donc, il va bien être suspendu pour le prochain match.
On tirate Elche en Coupe du Roi. Okay.
Ouais, c'est ça. Patrick qui me dit espérons qu'Alaba ne rechute pas avant le prochain match, car une charnière Nacho Vallejo, ça fait peur. Mais Vallejo, il est même pas disponible. Enfin, en tout cas, là, il était forfait pour ce match. Il a aussi une petite gêne physique. Je sais pas ce qu'il en est exactement, ça n'a pas été communiqué, mais Vallejo, sur ce match-là, en tout cas, il était indispo parce que. Indispo. Pourquoi, je sais pas, mais indispo. Cyril qui nous dit, il est important de souligner que le match de Toni Kroos ce soir, c'est la définition d'un milieu de terrain complet. Il joue avec une telle sérénité. Ouais, Bilal, tu l'as un peu dit, le milieu de terrain rayonnant ce soir. Tu as quelque chose à ajouter sur les trois, Modric, Kroos, Casemiro.
Je pense qu'on a quasiment tous été dit sur ces trois joueurs. Non, toujours très impressionnant. J'étais honnêtement de ceux qui souhaitaient du renouvellement milieu de terrain, parce que bon, même pour la nouveauté, c'est vrai que ça fait tellement d'années maintenant, ça fait depuis quoi, depuis 2000...
7 ans, au moins 7 ans.
Ça fait 7 ans. Casemiro revient en... Non, il n'est pas là pour la décima, il me semble. Il, a... ah, si... enfin, il revient en 2016.
Plus 2014, plus. Justement. 2014,
2014.
Ouais, okay. Il est prêté la saison d'après et il revient l'année de la décima.
Absolument. Alors, avec Benitez et après Zidane, etc. 7 ans qu'on voit les mêmes. Et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, parfois, et c'était mon sentiment contre Chelsea l'an dernier, quand on voyait l'activité plantée comparé à des milieux de Chelsea globalement, où je nous trouvais un peu en retrait. Après, quand il faut contrôler le match, quand il faut trouver les bons espaces, ils ont tellement l'habitude de jouer ensemble. Ils sont vraiment, c'est peut-être le plus grand trio de milieu de terrain de l'histoire, je pense, qu'on a sous les yeux depuis du coup 7 ans au Real Madrid. Quoi, ça.
Ouais, ça doit se discuter dans les 3-4, en tout cas, meilleur milieu, la meilleure triplette du milieu de l'histoire, ouais, je pense, sans aucun problème même. Bah, en fait, moi, je pense que la limite de ce trio-là aujourd'hui, ouais, c'est, je pense qu'elle est physique. On l'avait vu contre Chelsea, qui avait imposé une intensité complètement folle au milieu de terrain. Là, les gars ont été pris à la gorge et ils ont souffert. Contre le Barça aussi, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Les jeunes du Barça ont mis énormément d'intensité, notamment, par exemple, je pense à Gavi, qui a vraiment été dans les jambes, dans les pieds de Toni Kroos pendant tout le match. Kroos, il a pas du tout aimé ça. Voilà, je pense que la limite de ce trio-là, elle est plutôt à ce niveau-là, niveau physique, intensité. Et c'est pour ça que la gestion de Carlo, elle fait toujours un peu discuter, parce qu'on se dit, mais dans quel état ils vont se retrouver déjà en février contre le PSG, et plus encore plus loin dans la saison si on venait à avancer. C'est un peu la question, voilà. Mais après, nous aussi, on demandait du renouvellement. Je me souviens très bien qu'il y a un podcast de l'année dernière où on se disait... mais aujourd'hui, Modric, il doit être en sortie de banc. Et en fait, quand on voit aujourd'hui le niveau qu'affiche encore Luka Modric, mais le mettre sur le banc, c'est absolument impossible, parce que ça reste la meilleure pièce qu'a le Real au milieu de terrain. Donc ouais, c'est compliqué. Je ne sais pas combien de temps il va tenir encore le Croate, mais il est absolument, absolument fou.
Encore ce soir, hein. D'ailleurs, il a été élu MVP là. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé assez incroyable encore ce soir. Hein.
Premier but de la saison, hein, d'ailleurs, ce soir.
Ouais, c'est vrai.
Le sens du timing, voilà, c'est ça. Alors, niveau de la réaction, après la Super Coupe, quelle serait la priorité entre la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions? Je dirais la Coupe du Roi, depuis 2014, on ne l'a pas gagnée. Bilal, tu es d'accord avec ça?
Je préférais prendre les deux autres trophées, honnêtement. Non, mais ouais... Moi, j'aime pas trop me projeter comme ça, mais la Liga, c'est bien entamé. Après, on verra si Séville tient le rythme. Et je me rappelle encore de la saison 2014-2015 où on perd la Liga de manière assez folle. Donc, j'aime pas trop m'aventurer là-dessus. Ligue des Champions, je pense que c'est difficile toujours de se projeter, de savoir si vraiment quelle équipe va aller au bout. Il y a d'excellentes équipes en Europe. J'ai pas besoin de les citer, je pense. Et il y a le premier match coup près contre le PSG qui va arriver assez vite. Donc, si on passe le PSG, on verra, mais je préférais largement gagner la Liga ou la Ligue des Champions, et d'ailleurs la Ligue des Champions, que la Copa, même si c'est un très beau trophée, bien sûr.
Ouais, non, la Coupe du Roi, ça reste très second, enfin, ouais, ça reste secondaire par rapport à ces compétitions-là. Et d'ailleurs, c'est vrai historiquement pour le Real, hein. Le Real a 10 Copas de moins que le Barça, par exemple, hein, Donc ouais, non, évidemment, de toute façon, on dit toujours ça chaque année, on dit que la Liga, c'est le plus important, mais si on perd la Liga et qu'on va chercher la Ligue des Champions, il veut dire on s'en foutra.
On sera très content.
C'est ça, ouais. Mohamed qui nous dit, un peu dans le même registre, pensez-vous que l'équipe peut faire le triplé au niveau national? Comme largement jouable, j'allais dire largement jouable, je m'enflamme peut-être, mais c'est plutôt bien parti, en tout cas, Axel.
Ouais, largement, je sais pas, mais effectivement, c'est un fait qui existe et qui est probable, effectivement. Après, en plus, on le sait, la Copa, ça a changé de format. Maintenant, c'est un peu format Coupe de France avec élimination directe. Donc, c'est toujours des matchs particuliers. C'est totalement différent de l'ancien format. Mais en Liga, si on perd la Liga cette saison, ça sera nous, les principaux responsables avant que ça soit avant les adversaires directs, je veux dire.
Ouais, je suis entièrement d'accord. Vraiment, il y a le niveau de la Liga est pas si mauvais, je trouve, cette année, malgré ce qu'on peut dire. Mais c'est vrai que ce soit l'Atlético ou le Barça, ils sont quand même très très loin. Séville, bon, historiquement, il s'effondre à un moment ou à un autre, donc j'espère qu'on va réussir à la prendre comme celle-là.
Après, Paz nous dit que Séville va jouer la Liga à fond parce qu'ils n'ont plus que ça. Ce sera compliqué, mais ça reste faisable. Ouais, en tout cas, le triplé est faisable, hein. Surtout sur le nouveau format, un match sur un seul match, ça avantage plus ou moins le Real. D'ailleurs, je trouve que ce match le démontre bien que le. Et bon, on en reviendra peut-être un peu, mais je trouve que après, mais je pense que ce match démontre bien à quel point le Real est peut-être redevenu extrêmement fort et costaud sur le format un match. C'est peut-être ça l'enseignement de ces deux matchs.
Ils ont la Ligue Europa, Séville, encore. Hein. Ils doivent jouer contre le Dynamo, il me semble. Donc, ils auront aussi une autre compétition. Et j'ai pas suivi. Ils ont perdu contre le Bétis, là, du coup?
Ouais, 2-1.
Ok.
Ok, j'ai pas suivi.
Ouais, ils sont éliminés de la Copa, ouais.
Ok.
D'accord, ouais, après l'incident d'hier soir. Patrick qui me dit ce milieu de terrain, donc en parlant de Modric, Kroos et Casemiro, ne tiendra pas en Ligue des Champions, manque d'intensité, notamment contre les Anglais. Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport en se rappelant du match contre Chelsea. C'est peut-être la limite de ce milieu de terrain, c'est que si on a une équipe en face qui sait mettre l'intensité et qui sait exercer un bon pressing, on peut vite être en difficulté. Olivier qui nous dit, même si on a un milieu de terrain de fou, il faut donner du temps de jeu à Camavinga, Ceballos et Fede Valverde. On en parlait un peu entre nous mercredi, je crois, Axel. Non, c'était avec Rota et notre invité. Vous pensez pas que Ceballos peut avoir une belle carte à jouer sur cette deuxième partie de saison, Bilal?
Si, ses entrées étaient plutôt bonnes, je trouve. Je suis un peu déçu que Carvalho lui donne très très peu de temps de jeu. Je trouve qu'il a vraiment mûri, qu'il a gagné en qualité. Après, c'est toujours difficile. Carlo Ancelotti, on connaît son culte pour l'équilibre et son manque de rotation, comme le soulignait aussi Alcel. Ça reste compliqué pour soit Camavinga, Ceballos ou autre, même Arribas ou Banco qui jouent très très peu finalement. Pas du tout d'ailleurs même. On verra contre Elche si j'espère qu'il va jouer. Il va continuer à montrer qu'il a beaucoup progressé.
Axel, par rapport aussi
Ouais, non.
à son profil technique, je trouve qu'on l'avait très bien vu d'ailleurs sur le dernier match. Je crois que c'était contre Valence où c'est lui qui rentre en jeu. Enfin, lui il rentre en jeu et Camavinga entre également en jeu. Et je trouve qu'il y a eu un gros contraste entre les deux, entre d'un côté un Ceballos qui rentre dans un match où le Real gagnait et qu'il fallait gérer le match. On a vu à la fois d'un côté on a vu un Ceballos qui techniquement, était sûr de lui, propre, voilà, qui gérait le tempo du match. Et à côté, on avait un Camavinga qui était encore un peu fou, qui commet des fautes un peu bêtes, qui perd deux ballons. Enfin, et je trouve que ça peut le pénaliser sur la deuxième partie de saison.
Ouais, totalement. Mais déjà, je trouve que, bah, comme l'a dit Bilal, bon, on connaît Carlo, il fait très peu tourner. Il aime encore ce soir, hein, on l'a vu, il a beaucoup tardé, il a fait peu de changements au final. Mais je trouve que c'est déjà un bon signal envoyé à Ceballos de lui faire confiance parce que je crois que c'est contre Valence, du coup, ouais, où il doit avoir une bonne demi-heure de jeu, il me semble. Donc, pour un joueur qui a manqué autant de compétitions, qui revient dans un effectif où il y a quand même, faut pas l'oublier, mais il y a du Isco, il y a Asensio, compagnie, qui n'ont pas non plus un temps, enfin Asensio un petit peu, mais Isco par exemple, qui a eu un temps de jeu vraiment minime cette saison. Il repasse devant des joueurs comme ça. Donc je trouve que c'est déjà un bon signal pour la deuxième partie de saison. Et comme tu l'as dit, Tom, c'est vrai que techniquement, on a senti qu'il était bah, beaucoup plus mature que ses précédents passages au Real. C'est vrai qu'il a. Techniquement, il était bon. Ensuite, il n'a pas essayé d'en faire trop. Il est resté simple et ça a été efficace. Là où Kama, et ça a tendance à se répéter sur les différentes sorties qu'il fait, il est un peu foufou. De temps en temps, il part un peu à l'abordage et parfois même, il est nerveux. C'est le gros problème qu'il a et qu'il faut qu'il essaye de gommer pour qu'on retrouve ses belles prestations du début de saison. Ouais.
Bon, ça viendra avec le temps. Je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude non plus là-dessus. Joueur de 18 ans, donc Il n'y a pas non plus à s'inquiéter, mais c'est vrai que sur le court terme, je pense que ça peut le faire reculer d'un bon cran dans la hiérarchie, même si je pense qu'il y a toujours une place, la place de Casemiro, enfin un backup à Casemiro. On voit bien que Carlo compte pas sur Blanco. Moi, pour l'instant, je trouve que Camavinga, là où il a été le plus intéressant, c'est quand il avait joué en 6. Donc à voir, mais il peut gratter du temps de jeu, je pense, peut-être plus en tant que numéro 6 quand il faudra faire souffler Casemiro que relayeur, où je pense qu'un Ceballos et un Fede Valverde peuvent lui passer devant. Alors on a I am Fred Baby qui nous dit: ne pensez-vous pas que Vini est un peu fatigué compte tenu du match qu'il a fait ce soir? C'est un peu le ressenti que j'ai eu moi, Bilal.
Ouais, je suis complètement d'accord. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont joué 120 minutes contre le Barça. Il y a le déplacement en Arabie Saoudite. Les matchs s'enchaînent énormément. Mais oui, j'ai trouvé globalement que ce soit Vinicius ou même Benzema, c'est tout émoussé. Mais c'est compréhensible. Ils enchaînent les matchs, ils jouent quasiment tout le temps, toutes les minutes. Encore une fois, on en revient à la gestion de Carlo. Je pense que faire rentrer Jovic, même si je ne suis pas le plus grand fan du joueur, pour 10 minutes ou. Ça peut toujours être bénéfique, je trouve, pour faire tourner Benzema. Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, honnêtement, c'est que Vinicius ou Benzema, l'un des deux se blesse juste avant le match contre Paris. Offensivement, sans eux, c'est un peu le néant. Et ouais, c'est un peu le. Ce serait le scénario catastrophe, quoi.
Justement, tout à l'heure, on avait une question par rapport à ça. Je ne sais plus qui nous a posé la question, mais si on pensait que Carlo allait faire des changements, oui, par rapport au match de Elche, je pense qu'en théorie, on aura quand même quelques changements, Axel.
Oui, ben, comme on avait dit à la sortie du dernier match face à Alcoyano, je pense que par exemple dans les buts, je te rejoignais là-dessus, on reverra Courtois qui va reprendre sa place. Loni n'a pas été extrêmement convaincant, donc sur ça il ne devrait prendre aucun risque, on joue un club de Liga. Après, j'ose espérer quand même que ouais, au milieu et offensivement, il y ait au moins un changement par ligne, qui serait en soi assez peu, mais avec Carlo, on sait qu'il faut pas non plus trop rêver. Mais j'ose espérer quoi, ouais, avec les échéances qui vont arriver, il donnera du temps de jeu à d'autres joueurs. Surtout que Jovic, par exemple, parce qu'on a cité son nom, était resté sur des prestations plutôt intéressantes, ou du moins il essayait de montrer des choses. Donc pour ça, il mériterait d'avoir encore quelques minutes.
Ouais, je suis d'accord. Le match et demi qu'il a joué, quand il remplace Benzema contre l'Atlético, à la mi-temps, ou le match d'avant, je suis d'accord, plutôt bon, bon, pas extraordinaire. C'est pas le joueur qu'on nous a vendu lors de son arrivée, mais plutôt convaincant tout de même. Je sais pas ce que tu en penses, Axel ou Thomas.
Ouais, je suis complètement d'accord, ouais. Et c'est d'autant plus compliqué pour un joueur qui comme ça a aucune régularité, qui a très très peu de temps de jeu. Débarquer comme ça un peu à l'improviste de nulle part, parce que en plus il joue parce que Benzema se blesse, hein, et pas pour une autre raison. Rentrer comme ça et répondre présent, c'est l'exercice sûrement le plus difficile. Mais après, c'est aussi ce que le Real demande à ces joueurs qui jouent pas, malheureusement, c'est que dès que tu rentres, peu importe les petites miettes que tu as 20 minutes, que tu as 30 minutes ou que tu as 1 heure, bah t'as intérêt à être bon, parce que sinon, bah sur le prochain match, tu retournes sur le banc et tu sais pas quand tu reviens. Je pense que Jovic est le meilleur exemple de cette difficulté qu'est le Real Madrid à s'imposer et avoir du temps de jeu. Après, lui, c'est peut-être un cas encore un peu à part, parce qu'il se retrouve face à un Karim Benzema qui, notamment, est extrêmement performant, un joueur dont le Real ne peut pas se passer, mais en plus, c'est un joueur qui physiquement tient toujours la route et qui n'a pas forcément besoin de beaucoup de repos, surtout que sur les précédentes années, pardon, il n'avait pas l'équipe de France, donc tous les mois, sur les buts de saison, puis à partir de mars, il avait à chaque fois une petite dizaine de jours pour se reposer, donc c'était pas évident pour lui. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Jovic avait apporté plutôt satisfaction, mais encore une fois, bah là, son on va dire que son sa dynamique a été coupée, donc à voir s'il réussira à la relancer. J'espère en tout cas, parce qu'on pourrait en avoir besoin, parce que comme tu le disais, la crainte numéro une au Real, c'est que Benzema et ou Vinicius se pètent quelque chose, et là on serait quand même bien dans la mouise. Vous pensez qu'on va voir Hazard contre Elche?
Je ne sais pas s'il sera titulaire, mais quand même, je pense qu'il aura quelques minutes, ouais. Je m'étais pas trompé la dernière fois, je ne sais plus pour quel match quand je l'avais annoncé titulaire. Bon, il avait été terriblement nul, hein, mais j'avais annoncé titulaire, il l'avait été. Il a grillé une carte de plus. Donc là, je pense qu'il aura peut-être quelques minutes. Il fait partie en tout cas de ces joueurs qui postulent, avec potentiellement Asensio, par exemple, de l'autre côté, vu que ce soir, il n'a pas pu jouer.
Ben, s'il peut
Mais
jouer. Asensio, il a un petit souci physique.
Oui, si,
Alors
mais a priori, c'était pas trop important.
je sais pas, le joueur tout à l'heure a mis un petit post sur les réseaux sociaux en confirmant qu'il s'est blessé, mais après je pense qu'on saura demain quand ils vont retourner à Madrid et qu'il va passer des examens.
Ah oui,
Mais
dans ma tête, c'était un.
du coup
Donc c'est pour ça.
je serais pas surpris qu'il manque au moins le premier match jeudi, je pense.
Oui, bah alors, encore plus dans ce cas, je vois bien Hazard grignoter un petit peu, ouais, effectivement.
Bah, je pense que s'il se fait dépasser par Peter, ce serait compliqué là, ce serait chaud là.
Terrible.
Non, mais Hazard, ta fin de carrière, je sais pas si on peut parler de fin de carrière encore, mais sa situation en tout cas, c'est d'une tristesse tout de même. On en vient à faire jouer contre Altoyano en coupe et il est même pas bon, hein, comme tu l'as souligné. Plutôt médiocre, on va dire, au sens propre du terme. Et j'espère qu'il va jouer contre Elche au moins en Coupe du Roi. De toute façon, on les raffronte en fait juste après en Liga cette fois, mais à domicile. Donc, ouais, non, s'il joue pas contre Elche en Coupe du Roi, il jouera zéro match, ça veut dire.
Et encore, moi j'ai envie de dire qu'il a entre guillemets un peu de chance, c'est que Gareth Bale n'est pas là, n'est pas pour lui, on sait même pas où il est, hein. D'ailleurs, il est encore blessé, hein. Pour combien de temps, tout ça, on n'en a aucune idée, mais je dirais que c'est une chance pour lui, en tout cas, c'est une chance de plus pour lui que Gareth Bale ne soit pas là, parce que j'ai la quasi-certitude que si Gareth Bale est présent et qu'il est. Elle est à peu près en condition et prêt à jouer. Je suis à peu près sûr que Gareth Bale passe devant Hazard dans la hiérarchie de Carlo.
Il a montré 1000 fois plus de choses, Bale. Bon, je ne suis pas son plus grand fan, hein, mais que Hazard au Real Madrid. Je suis d'accord avec toi. Bah, il joue au début de saison là cette année. Il fait
Ouais,
il marre
il
d'ailleurs au
est
premier
intéressant.
match, il me semble. Ouais, il n'était pas mauvais, je suis d'accord. Vous pensez qu'il est blessé là? Pour moi, il n'est juste pas vacciné. Ils l'ont laissé à Madrid à cause de ça, mais je peux me tromper.
C'est une bonne question. C'est une bonne
Ouais.
question. Parce qu'après, maintenant, il y a certains joueurs qui refusent que les clubs communiquent sur la nature des blessures, tout ça. Et lui était d'ailleurs le premier à avoir inauguré ça, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans.
D'ailleurs, on en a eu quelques-uns comme ça, ouais.
Ouais. Et il a lancé un peu une mode comme ça où certains joueurs refusent que les clubs communiquent sur la blessure et sur la nature de la blessure.
J'allais dire, il y a pas mal de cas où il y a des blessures, je le sais par différentes sources, où souvent il y a des joueurs qui sont en dépression ou qui ont des problèmes un peu psychiatriques et les clubs vont dire blessure au dos ou ne communiquent pas sur la blessure pour éviter justement de mettre encore plus de pression sur le joueur. Je sais pas si c'est le cas pour Bell, mais ouais, pour revenir au point de base, d'accord qu'il était vraiment plutôt intéressant en début de saison et qu'il aura pu rendre beaucoup de services cette saison parce que le poste d'ailier droit, malheureusement, je trouve que Asensio Rodrigo, c'est toujours pas assez fort, je trouve, pour être titulaire au Real Madrid.
Non, mais est-ce que c'est pas quand même le meilleur choix par défaut actuellement?
Par défaut, si.
C'est un peu ce que disait Axel tout à l'heure et je suis plutôt d'accord. J'ai quand même l'impression que Carlo est en train de vraiment créer un peu une concurrence focalisée entre les deux. Et d'ailleurs, on le voit très bien par rapport à sa communication aussi en conférence de presse. Ça fait quand même, je trouve, je vois plusieurs semaines. Et pour traduire les conférences de presse. Pour écouter et traduire à chaque fois les conférences de presse de Carlo, je le vois très bien dans sa communication. Il ne parle quasiment plus de Hazard. Quand il parle de joueurs pour accompagner Vinicius et Benzema, il parle systématiquement de Asensio ou Rodrigo et il omet complètement le nom de Hazard. Et je trouve que ça, c'est un signe fort. Et puis on le voit aussi par rapport à ses choix. Hein. Ça va faire 2-3 mois où c'est un coup Asensio, un coup Rodrigo. Je crois qu'il est en train d'essayer de booster un peu les deux en les challengeant comme ça. Et je trouve que ça porte plutôt ses fruits. Alors après, je suis d'accord avec toi, hein, Le Real doit avoir beaucoup mieux à ce poste-là. On attend un troisième et un vrai grand top player pour accompagner ces deux-là. Mais je trouve qu'ils sont allez, plutôt satisfaisants, corrects sur les dernières semaines. Voilà. Après, sans être complètement fou, hein, c'est pas foufou, mais je trouve qu'en tout cas, dans le collectif, ils s'intègrent bien. Et bon, ils font quelques statistiques. Asensio, il met un but de temps en temps. Rodrigo, bon, pas trop, il marque pas trop de buts, il en a mis un peu en début de saison, mais pas trop sinon. Bon, aujourd'hui, quand même plutôt bon, Lavezzi, et en première période, il fait quand même la passe D, l'accélération et la passe D pour Modric. Enfin, voilà, je trouve que c'est pas oufissime, mais je trouve que c'est quand même plutôt correct ce que les deux produisent ces dernières semaines. Alors, Patrick qui nous demande, pensez-vous que le club paye les salaires des joueurs blessés ou ce sont les assurances qui s'en chargent? Ce sont les joueurs. Les clubs, pardon. Les joueurs. Non, ce sont bien les clubs qui payent les contrats. Mais les joueurs, en fait, ont des contrats vraiment par saison. Hein. Ils reçoivent pas des payes tous les mois comme les salariés lambda. Ils reçoivent, je crois, un ou deux paiements sur l'année. Tout simplement. Et non, il n'y a pas de. L'assurance prend pas en charge les millions d'euros de Gareth Bale. Ça ferait un sacré trou dans la caisse espagnole.
On avait une... Yanis qui nous demande. Pardon, je me permets, parce que j'ai vu qu'il avait posé la question tout à l'heure. Qui demande est-ce que le match contre Villarreal le 13 février va être reporté, sachant qu'on joue Paris le 15? Le match de Villarreal, il n'a pas dû être encore planifié par la Ligue, mais il y a des chances que ce soit le... Alors le 13, je ne sais pas si c'est un dimanche ou pas, mais il y a des chances que ce soit le 12, du coup. Mais voilà, ça sera pas le 13, effectivement, je pense pas.
En fait, les dates sont officiellement annoncées. Le programme de la Liga est annoncé environ 3 semaines avant les matchs. Donc là, tu parles du match de Villarreal qui est dans un mois. La Liga n'a pas encore... ou alors je suis passé à côté, mais la Liga, n'a pas, non, en théorie, n'a pas encore communiqué la programmation. Généralement, c'est 3 semaines avant le week-end J, que les, enfin, le week-end de la journée que la Liga communique sur la programmation. Donc, comme dit Axel, ouais, là, ce match-là, il sera pas le 13, il sera sûrement le 12.
Le 12, ça tombe un samedi, il me semble, et donc... effectivement, le
voilà. Match
quand tu as tes défis.
Ouais, ils vont mettre à 16h sûrement. Voilà. Ce sera pas le 13, non, c'est sûr qu'il. Surtout que la Liga s'arrange quand même pour aider à minima ces clubs européens. Donc, oui. Madridista 17, je crois que la loi espagnole protège les salariés sur la confidentialité de leur santé, mais je suis d'accord avec l'invité. Mal de dos est souvent un euphémisme. Pour les joueurs ayant des soucis psychologiques. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Dupont, l'ancien préparateur physique du Real, là, qui était à l'équipe de France, qui a rejoint avec Zidane le dernier staff et qui est parti donc, cette année pour relaisser sa place à Pintus, il a accordé un superbe entretien qui a été traduit sur Real France, enfin, pas traduit, qui a été rapporté sur Real France, une interview dans Le Parisien, je crois. Où il expliquait justement que la saison passée, il y avait tellement une pression qui était mise sur lui par rapport aux supporters. Il disait qu'il recevait des menaces de mort, des insultes carrément, parce que tout le monde jugeait qu'il était responsable de toutes les blessures au Real et compagnie. Il expliquait que c'était devenu à tel point le bordel, à tel point menaçant autour de tout ça que le Real, entre guillemets, mentait, falsifiait. Certains cas. C'est-à-dire qu'il y avait la saison passée, il disait qu'il y a eu des blessures qui ont été passées pour Covid.
Oui, j'ai lu l'interview, elle était très très intéressante. Parce qu'effectivement, il est choisi par Zidane donc pour devenir le préparateur physique. Et je m'étais intéressé au personnage. Et c'est vrai que l'an dernier, le nombre de blessures était stratosphérique. Enfin, je ne sais pas si vous en rappelez tous les deux, mais ils tombaient ouais. Comme des mouches, c'était insupportable.
Ouais, bah c'était devenu tellement le bordel qu'il disait que
effectivement... Et c'est intéressant de savoir à quel point en fait un préparateur physique a influence ou non sur le nombre de blessures, parce que je pense qu'il est tout à fait compétent, mais cette année il y a très très peu de blessures, et honnêtement j'ai fait partie de ceux qui, bon je l'ai pas menacé de mort bien entendu, je suis pas complètement demeuré, mais je l'ai certainement maudit une ou deux fois, j'imagine que vous aussi.
Ouais,
Oh, d'ailleurs.
mais expliquer qu'en fait le préparateur physique en lui-même, il n'a pas tellement un rôle de dingue, quoi. Enfin, il accompagne sur les séances et compagnie, il fait quelques trucs, mais il disait que globalement dans un club comme le Real, en fait, t'as pas la mainmise, en fait, parce que tout est déjà plus ou moins programmé, il y a les habitudes. Et en gros, le préparateur physique, il est là pour faire respecter, entre guillemets, le programme et faire quelques ajustements. Mais il disait qu'en fait, le préparateur physique, en tout cas, il disait pas qu'il avait les mains liées, mais voilà, que son rôle, il était pas, en tout cas, il est pas responsable de tout ça. Il expliquait, c'est ce qu'il expliquait, voilà. Alors, on a Karim qui nous dit question. Attends, tout à l'heure, j'avais une question sur Carvajal, je crois. C'est à côté. Alors, Emmanuel qui nous disait tout à l'heure, j'aime Carvajal, mais j'ai pas compris sa prolongation l'année dernière. Pérez doit s'activer sur un vrai latéral droit parce que Vasquez fait de bons matchs que lorsque le Real contrôle le jeu. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, ça, par rapport au latéral droit. Bilal, tu penses que le Real doit absolument aller chercher quelqu'un?
Je pense que oui, honnêtement, c'est une interrogation importante. Malheureusement, Carvajal n'est plus en mesure aujourd'hui de faire des saisons à 30-40 matchs. Il se pète malheureusement beaucoup trop souvent. Lucas Vasquez, j'aime beaucoup le joueur, enfin l'homme plutôt. Il a l'air extrêmement sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais il a bon, pas le niveau pour être, en tout cas durablement, latéral droit du Real. Après, sur le marché des latéraux droits, dans le chat, je vois qu'on espère un retour d'Hakimi, éventuellement. Je ne sais pas si c'est possible, je sais pas si le Real a une option pour le racheter moins cher.
Non,
Je pense pas.
on l'avait
Donc,
à l'Inter. Quand il était à l'Inter,
non,
on avait une. Enfin, pas pour le racheter moins cher, c'était pas une clause de rachat, mais c'était une clause de priorité de rachat. C'est-à-dire que je sais plus combien le PSG l'a payé, je crois, 70 millions, je crois, quelque chose comme ça.
ouais. Ouais.
Et en gros, le Real avait le droit de s'aligner sur l'offre. Et donc, si le Real égalait l'offre du PSG ou de quelconque autre club, le Real raflait la mise, voilà. Mais bon, le Real s'est pas aligné sur Achraf et maintenant, non, le Real n'a plus la main.
Dans le chat, on propose Youssef Attal, lui aussi se blesse énormément, donc je ne serai pas forcément pour. Mais non, j'ai pas forcément de nom en tête, je sais pas si vous avez des idées.
Bah, ça parle de Porro, qui joue au Sporting. Perso, j'avoue que je connais pas trop, j'ai pas assez vu jouer.
Pas non plus.
En tout cas, ce serait la piste qui est plus ou moins suivie par le Real. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que les solutions sont pas énormes, hein. Perdre un joueur comme.
Après,
Ouais.
pour nuancer un petit peu sur Carvajal, parce que c'est vrai que je fais partie de ceux qui, depuis 1 an et demi, 2 ans, militent pour qu'on ait un concurrent de renom qui vienne à ce poste, pour qu'il y ait une vraie concurrence avec lui. Mais force est de constater que, mine de rien, cette saison, il a un peu plus de continuité, pardon, que les 2, 3 dernières saisons. Et on voit qu'après 2, 3 matchs, la machine est quand même relancée. Il montre de très bonnes choses. On sent qu'offensivement, il y a toujours un peu d'aisance quand même par rapport par exemple à un Mendy. Alors effectivement, il peut pas enchaîner 40-50 matchs, mais ça reste quand même une valeur sûre, donc sa prolongation n'est pas non plus insensée, parce qu'il est quand même relativement jeune, hein. Il vient quand même de fêter tout juste ses 30 ans, je crois. Donc on peut espérer qu'avec une santé physique retrouvée, il ait encore 2-3 saisons de bon niveau. Mais voilà, c'est quand même un très bon latéral droit, il faut pas l'oublier. Là d'ailleurs, aujourd'hui, son absence était palliée à une blessure, hein. Il me semble que c'était le Covid, si je dis pas de bêtises.
Oui.
C'est ça, ouais.
Donc pas de souci pour Carvajal, vous inquiétez pas, là il est pas de retour à l'infirmerie. Avec un peu de chance, on l'a pour enchaîner là les prochaines échéances.
Après Carvajal, moi ce qui m'a plus interpellé, c'est pas qu'il prolonge, c'est plutôt la durée.
Ouais, c'est ça surtout.
Je crois que c'est 2025 ou 2026. Enfin, il avait signé, ouais, il avait signé quand même un contrat assez long pour un joueur qui sortait de plus d'une saison. Pas quasi tout le temps à l'infirmerie, mais quand même plus de 50% du temps à l'infirmerie, en sachant qu'entre deux, on sait très bien que quand un joueur revient d'une blessure, souvent il a besoin d'un peu de temps pour retrouver le rythme et compagnie. Enfin, le Real a vraiment donné sa confiance à Carvajal, et c'est plus ça qui interpellait. Mais après, oui, si Carvajal retrouve son niveau, de toute façon, on le voit très bien, hein. Les soirs où Carvajal Et dans un grand soir, et on l'avait vu, je sais plus contre qui, je sais plus si c'est contre Séville ou contre notre équipe. Hein. Quand Carvajal est réglé offensivement et que défensivement il est physiquement prêt, c'est un joueur qui est absolument hors norme et qui change quand même pas mal, peut changer en partie le visage du Real, parce que là on a un superbe contre-attaquant et ça s'inscrit parfaitement dans la politique, dans les idées de Carlo. Alors Patrick nous dit, mes priorités pour le prochain mercato, c'est clairement un arrière-droit et un backup pour Casemiro, comme déjà dit. Alors dans les coms, on a qui? On a Lothar Schneid qui nous propose Reece James, le joueur de Chelsea. JJPK qui nous propose Arnold de Liverpool, ce serait le rêve. Bah, le problème c'est qu'il faut aller les chercher, ces joueurs-là, c'est pas évident, mais
Ouais,
bon, pourquoi pas.
ils ne bougeront pas, je pense, hein.
Ouais, ça paraît compliqué en l'état. Généralement, les joueurs de première ligue sont difficiles à les déloger. Hein.
Ouais, surtout que cette saison,
On l'avait
les
avec
deux sont à bon niveau.
Hazard, ça fait quand même un temps qu'on en parle au Real.
Ouais, c'est
Ouais.
vrai.
Puis finalement, bah, quand on le récupère,
Pogba aussi, pareil.
le produit est fini.
Après, on a eu Modric en venant de Tottenham,
Ouais.
c'est pas
Ah,
mal.
mais au prix de quel effort? Comme Gareth Bale.
C'est vrai.
Bon après, Tottenham, c'est le pire des pires. Hein. Lévy, il n'y a pas plus compliqué en négociation. Hein. Ce gars, jusqu'au 30 août, il dit non. Et puis après, sur les dernières 24 heures, bon, vas-y, on peut discuter. Karim qui nous demande, question, quand est-ce que Mbappé viendra? Vous voyez quoi comme attaque du Real? Mbappé à droite, Benzema, Vinicius. Bilal, tu vois ça comment?
Mon rêve, honnêtement, ce serait que Mbappé accepte de jouer à droite. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Rodrigo Asensio. Je trouve qu'ils font, hein, comme tu as dit, ils font plutôt le taf. Mais Rodrigo doit être un but en Liga cette année, je crois. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il ait marqué en Liga.
Pas plus.
Asensio, il doit être à 5 ou 6. C'est quand même plutôt insuffisant. Donc, moi, dans l'idéal, pour répondre à la question clairement, ce serait Vinicius à gauche, Benzema en pointe. Et Mbappé à droite, comme en équipe de France en 2018. Après, est-ce qu'il acceptera de jouer à droite, ça c'est encore autre chose.
Axel, bon, moi j'imagine plutôt un trio très mobile. Mais c'est vrai que pour
Ouais,
l'instant,
après.
avec Vinicius, c'est quand même compliqué de l'imaginer, parce que Vinicius, c'est un joueur qui est très à l'aise à gauche, enfin qui a trouvé ses marques sur le côté gauche. Par contre, on voit très bien que quand il se retrouve, enfin, il va jamais à droite tout simplement. Même quand il se retrouve généralement plus dans l'axe, il a plus de mal encore pour l'instant à faire des différences. Pour l'instant, c'est vraiment un joueur qui joue à gauche et qui donne la sensation de ne pas pouvoir faire autre chose.
Ouais, c'est ça, je vois mal, enfin, Mbappé, c'est clair que si on lui dit d'être à droite à son arrivée, il fera ça. Mais effectivement, on parle d'un Mbappé qui date de 2018. Là, c'est vrai que depuis quelque temps, il avait milité pour être dans l'axe. Il s'est imposé dans l'axe. C'est difficile à l'heure actuelle de citer un joueur meilleur que lui, en tout cas pour l'avenir et peut-être les 10-15 prochaines années. Donc je pense que ça serait pas voué à durer s'il évoluait sur le côté droit. Ça serait plus un truc très mobile ou alors un changement de schéma avec éventuellement deux pointes et un Vinicius qui reste sur le côté ou un Benzema qui recule un petit peu pour faire le jeu dans un espèce de poste de numéro 10, 9 et demi. Enfin, c'est compliqué à dire. Faudrait voir à son arrivée, mais ouais, j'imagine comme Tom, un truc un peu mobile où, à part Vinicius, Mbappé et Benzema risqueraient d'être assez libres.
Olivier qui nous dit, j'ai peur que Mbappé se comporte comme une star en voulant jouer à gauche et en foutant le bordel. Bah, de toute façon, Mbappé, il va arriver en star, ça c'est une certitude. Et ça c'est une certitude. Lothar Snail qui nous demande, vous y croyez, Haaland au Real? Vrai que Haaland, le feuilleton s'accélère. Voilà, donc il se dit, enfin c'est pas il se dit, c'est lui-même le confirme, et Dortmund. Dortmund donc lui met un peu la pression là pour qu'il prenne une décision rapide sur savoir s'il reste ou s'il part. Bilal, tu vois ça comment du coup?
Honnêtement, je suis pas vraiment d'avis là-dessus. Haaland, le joueur est extraordinaire. Je suis tous d'accord là-dessus. Après, Haaland, Mbappé, Benzema, Vinicius, ça me paraît être beaucoup, très honnêtement. Après, il avait chez Mino Raiola, c'est toujours complexe les négociations avec lui. Dans l'idéal, moi, j'aimerais que Haaland reste encore un an à Dortmund pour le récupérer l'année prochaine, pour faire encore une saison avec Benzema et lui dire au revoir dans le nouveau stade et le remercier pour 13-14 ans qu'il a fait à Madrid. Après, si on peut avoir Haaland, Benzema, Mbappé, Vinicius, et pourquoi pas. Ça me paraît de beaucoup, mais très marrant en tout cas.
Justement, on a. C'est pas ce qu'il nous demande, à votre avis, combien de saisons encore au Real pour Benzema Bilal? Toi, tu vois plutôt 2 saisons du coup. Enfin, une et demie maintenant.
Pour moi, il finit celle-ci, il en rajoute une et il tire sa révérence. Il y aura la Coupe du. À mon sens, hein. Après, s'il reste à ce niveau-là, il peut jouer, s'il met toujours 20-30 buts par saison et qu'il est toujours aussi élégant. Si on peut le garder jusqu'à 38 ans, moi je suis motivé. Hein. Pas de sujet là-dessus. Hein.
Moi, je crois que c'est. Ouais, je pense que c'est entre guillemets hein, le problème pour dans le feuilleton Haaland. Hein. Parce que moi, Benzema, je le vois pas. Enfin, il y a 1 ou 2 saisons, j'avais dit, ouais, je pense Benzema encore 2-3 ans, et puis ça va partir. Mais au final, moi, je vois très bien Benzema un peu dans la lignée de Modric, hein, durer jusque encore quelques saisons. Même si après, c'est difficile de se projeter véritablement parce que on l'a vu par exemple avec Ramos. Ramos, honnêtement, début janvier 2021, absolument personne ne pouvait imaginer le scénario qui arrivait, c'est-à-dire le gars se blesse de février jusqu'au mois de juin, même plus encore, parce qu'avec Paris, il a mis du temps à revenir, et même encore aujourd'hui, il a du mal à enchaîner. Ramos, début janvier 2021, tout le monde se disait, mais la prolongation, faut lui donner ses 2 ans, faut lui augmenter son salaire, même s'il faut, le mec, il est encore là pour 4-5 ans, patron du Real. Puis au final, on voit très bien que qu'en l'espace de 2-3 mois, tout a vite basculé. Donc avec Benzema, on n'est pas non plus à l'abri d'un scénario catastrophe, un peu comme celui-ci. Mais sinon, Benzema, moi, s'il n'y a pas de souci, je le vois très bien durer encore 3-4 saisons. Alors après, il va peut-être baisser un peu de rythme à partir de 2024-2025. Mais ouais, je le vois encore sans aucun problème de 3 saisons. Et donc moi, je pense que Haaland, il y a des chances qu'on passe à côté parce que. Pas parce que le Real ne le voudra pas, mais parce que je pense que lui, à un moment donné, il se dira que le Real, c'est peut-être pas, malheureusement, même si ça semble être son choix numéro 1 d'aller au Real, j'ai bien peur qu'il se dise que sportivement, bah, pour lui, à titre vraiment individuel, c'est pas le meilleur endroit parce que un, tu vas arriver dans une équipe où il y a déjà au moins trois top players avec Vinicius, Benzema et Mbappé en théorie, mais à ça t'ajoutes surtout Benzema dans l'équation qui est le numéro 9 du Real qui va rester, je pense, le numéro 9 du Real tant qu'il est extrêmement performant parce qu'on le voit avec Jovic. Hein, Jovic, finalement, il a quasiment eu très très peu d'occasions. Carlo est un peu comme Zidane, c'est-à-dire qu'il fait très peu tourner Benzema parce qu'il le kiffe et parce que Benzema est physiquement prêt à jouer beaucoup beaucoup de matchs. Enfin, donc moi j'ai bien peur que le Real ouais, passe à côté de Haaland, à moins vraiment que Haaland soit vraiment déterminé à venir au Real. Mais je le vois nous échapper, l'ami Haaland. À toi, Axel?
Ouais, moi aussi, j'étais plus serein il y a un an sur son arrivée. Autant là, maintenant, je pense qu'on ne s'y intéressera pas parce que, comme tu l'as dit, moi aussi, je vois Benzema faire 3-4 ans sans trop de problèmes. Si les blessures l'épargnent, je pense que c'est un joueur qui, quoi qu'il arrive, aura toujours cette capacité technique incroyable et qui continuera pardon, de marquer des buts. Alors qu'Haaland, on a bien compris qu'a priori, ça devrait être sa dernière saison. Qui peut se comprendre, hein, il postule à être dans un club de plus haut standing que Dortmund, même si Dortmund reste un très grand club, hein, attention. Mais par exemple, ça évoquait City. C'est vrai que City, on l'oublie, c'est incroyable, mais juste en véritable neuf. Gabriel Jesus avait dit qu'il préférait évoluer sur le côté. C'est vrai que depuis le départ d'Aguero, ils n'ont pas de vrai numéro 9 et ils pourraient s'y intéresser. Le contrat de Lewandowski, je crois, s'arrête en 2023 aussi au Bayern. Il y a
C'est ça.
eu depuis un an ou une demi-saison des rumeurs comme quoi il pourrait vouloir un dernier challenge, ce qui pourrait se comprendre. Hein. Il est encore parti pour battre son propre record en Bundesliga. Donc on sait que historiquement, le Bayern aime bien shipper des gros joueurs au Borussia. Ça serait une solution qui pourrait convenir à Haaland éventuellement aussi. Donc non, je pense qu'il y aura des clubs de notre standing à nous qui vont aussi se manifester, qui auront plus de place que nous au moment opportun, disons. Puis nous, on a Mbappé à boucler, c'est pas encore totalement fait.
Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur Mbappé, je suis totalement d'accord. Il n'est pas encore arrivé, donc il n'a pas le maillot du Real sur les épaules, je me méfie. Et pour Haaland au Bayern, je pense qu'ils ne vont pas le faire pour la même raison que nous, à savoir qu'ils ont Lewandowski qui a 33 ans, il me semble, qui continue à empiler les buts tout comme Benzema, et qui refuse en fait pour l'instant de changer d'investir sur Haaland alors qu'ils ont un joueur certes trentenaire mais qui continue à empiler les buts.
Et oui, mais ça dépendra justement de la volonté de Lewandowski, parce qu'a priori, c'était lui qui pouvait être intéressé éventuellement pour aller voir ailleurs. Alors, est-ce qu'il partira libre? Est-ce qu'il partira cet été? À voir. J'avoue que ça, je ne sais pas trop. Hein, mais...
Moi, je pense qu'il va rester, il lui reste. S'il continue encore 2 ans et demi, 3 ans, Lewandowski pourra battre le record de Gerd Müller, ce qui paraissait inimaginable il y a encore une décennie. Enfin, moi, je le vois rester au Bayern encore 2-3 ans minimum, mais bon, je peux me tromper, bien entendu.
Ah, c'est vrai que le Real et le Bayern sont un peu dans le même cas de figure par rapport à ce numéro 9. Haaland, c'est pas un joueur qui fait venir pour être un backup. C'est 2 classes au-dessus de Jovic. Même si moi je suis pas d'accord. Enfin, en fait, il y a quelque chose qu'il faut nuancer, c'est que l'argument de ouais, Haaland ne viendra pas au Real parce qu'il y a Mbappé et que Haaland va être la star. Je pense que enfin, c'est pas l'argument ultime, c'est-à-dire que 2 stars peuvent absolument jouer ensemble, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on ne peut pas non plus complètement nier que si Haaland est vraiment un joueur qui a des aspirations, certes collectives, c'est-à-dire gagner des titres et compagnie, mais c'est aussi un joueur qui peut avoir des aspirations individuelles. Et dans le foot moderne, plus que jamais, les joueurs, la plupart des grands joueurs qui ont de grandes ambitions ont des aspirations sur le plan individuel. En ce sens-là, oui, effectivement, le fait qu'il y ait déjà pléthore de grands joueurs, et notamment Mbappé, qui va prendre beaucoup de lumière au Real, ça peut pour lui être aussi un argument de dire bon bah finalement je vais pas aller au Real. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut nuancer, mais après encore une fois, tout ça, là on lit beaucoup de choses dans la presse, je pense qu'il y en a beaucoup il y en a très peu à prendre et beaucoup à laisser, je pense. Je pense que de toute façon, son prochain club, on le saura s'il y a un prochain club. Je pense que là, sur les prochaines semaines, on va savoir s'il part ou il reste. Et s'il part, son prochain club, on le saura que cet été et pas avant. Hein, parce
Ouais,
que...
et puis je te rejoins sur ça. On le saura là dans les prochaines semaines s'il y a départ ou non. Et même si ça sera pas annoncé, il aura déjà la destination de signer, parce que en plus de tout ça, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. En plus de tout ça, on est sur une année de Coupe du Monde, en plus particulière parce que ça sera l'hiver prochain. On sait très bien que les années de Coupe du Monde, au niveau du marché des transferts aussi, c'est assez particulier tout ça. Donc oui, je pense qu'Haaland, déjà, il va donner sa décision rapidement pour si départ ou non il y a. Et que même si c'est pas annoncé, il saura très bien où il va finir bien avant cet été. Rien que mentalement pour se préparer, même si lui, la Coupe du Monde, ça sera pas son cas, mais bon.
Ouais.
Honnêtement, j'aimerais bien qu'il aille au Barça.
Oh non.
Pour Je suis dur, hein, mais je veux recréer cette rivalité un peu. Ce serait intéressant, je trouve, d'avoir. Même pour nous, de voir des Haaland contre Mbappé, etc. Bon, ça serait marrant. Je trouve
Honnêtement,
dans le
moi,
son.
je préfère avoir Mbappé que Haaland. Entre les deux, pour moi,
Ah, c'est intéressant. C'est ton cas aussi, Axel?
Ah oui, pour moi, il n'y a pas de débat.
Ok, c'est intéressant.
Tu préfères Haaland?
Non, moi, Mbappé aussi.
Non, non, Bilal.
Moi, je préfère Haaland, mais c'est subjectif, honnêtement. Donc, les deux sont extraordinaires, il n'y a pas de sujet. Mais je préférais avoir Haaland. Voilà, il me paraît plus déterminé, il
D'accord.
véhicule plus de choses pour moi, il me plaît plus. Après, les deux sont incroyables, hein, il n'y a pas de débat. Dans le chat, c'est marrant, je ne sais pas s'il préfère. Enfin, je préfère Haaland de la part de Lothar aussi. Je pense que c'est assez mitigé, hein. Je suis pas sûr que ça soit aussi. Enfin, c'est pas
Attends.
du 100% pour moi.
Je vais lancer un petit sondage. Ouais, c'est intéressant. Pour moi, il n'y a pas. Y a, moi, honnêtement, dans mon esprit, il n'y a absolument aucun doute. Je préfère 100 fois avoir Mbappé. Je pense que. Je pense que Mbappé fera une carrière d'une bonne classe supérieure à celle de Haaland, je pense. Tu dis que tu vois Haaland plus déterminé. Moi, pas forcément. Je trouve que Mbappé, il a justement des aspirations collectives, mais justement individuelles, vraiment semblables un peu à celles de CR7. Enfin, le gars, il est vraiment parti dans un objectif de terminer sa carrière en se disant, mais moi, je suis l'un des 3-4 meilleurs joueurs de l'histoire et il n'y a aucun débat. Et puis, je pense que c'est un joueur qui colle parfaitement en plus au Real.
Ah, je suis d'accord, hein, les deux sont incroyables, mais Haaland, physiquement, je trouve au-dessus. Techniquement, je trouve pour sa taille vraiment très fin par rapport à sa taille. Bon, c'est pas Benzema techniquement, mais je trouve plutôt très fin. Et je trouve qu'il a une intelligence de jeu qui est absolument remarquable dans ses déplacements. Et cette volonté de marquer tous les buts, elle transpire. Ça, je trouve vraiment, il entraîne Dortmund avec lui, sa rage de vaincre, elle transpire dans chaque match. Après, Mbappé, bien sûr, aussi, il est comme ça. Là-dessus, il se ressemble énormément, je suis d'accord.
Mais tu vois, justement, là, je mets un petit astérisque sur Haaland. C'est-à-dire que justement, il joue à Dortmund. Et Dortmund, c'est un bon club, hein, mais entre guillemets, ça reste Dortmund, tu vois. Je trouve que Mbappé, en tout cas, pour l'instant, il a beaucoup plus prouvé que Haaland. Après, je sais pas si c'est par rapport à Jovic, hein, mais la Bundesliga, j'ai tendance à méfier un peu, tu vois, parce que je me dis, on s'est fait avoir une fois, peut-être Haaland, il va venir au Real et ça
Ah,
va.
je suis d'accord, mais quand même,
Alors,
on l'a vu
j'abuse.
en Ligue des Champions. Non, mais je suis d'accord, on l'a vu en Ligue des Champions. C'est vrai que Mbappé l'an dernier, mais son triplé contre le Barça, mais son doublé contre le Bayern. Donc, il a déposé sa carte de visite, on va dire, en Ligue des Champions. Et encore, il a déjà fait Monaco contre Dortmund, notamment, et contre City.
Mbappé, c'est intéressant aussi, pardon, c'est que à son jeune âge encore, il a déjà vachement évolué quand même dans son style de jeu. Il a commencé sur le côté où il explosait tout. Il a lui-même demandé à passer dans l'axe. Certains étaient plutôt dubitatifs parce que à Paris, par exemple, il y avait ce qu'il fallait. Il y avait Cavani et compagnie. Enfin, le temps a fait que ça lui a donné raison. Il est performant. Ça fait 3 saisons, je crois, qu'il finit meilleur buteur de Ligue 1 à son âge. En Ligue des Champions, il est performant aussi. Là où Haaland, ben, le jour, même si je le trouve complet également, c'est vrai que c'est une machine à but, mais si un jour ça va moins bien, est-ce qu'il est capable de s'adapter autant? Je sais pas. Alors que Mbappé, sur ça, je pense que, comme le disait Tom, pour un club comme le Real, encore plus, ça serait un profil impeccable, quoi.
Alors, au niveau des réactions, au niveau du sondage, on a 74% de Mbappé. Hein. Fait partie de l'avis minoritaire, Bilal. Mais bon, il y a quand
Persistant.
même, mais bon, il y a quand même 30%, tu vois. Je pensais que l'écart était plus important, tu vois, c'est intéressant. Haaland, c'est 70 buts en 68 matchs avec Dortmund, quand même, dit Lothar Schneid. Bon, il a un ratio de 1 but par match en 2 ans, ça c'est ouf. Parce qu'il demande si tu prends Mbappé, tu fais quoi de Vinicius? Bon, bah après, ça c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il va falloir trouver la bonne équation, mais ça c'est ce rôle de l'entraîneur qui. Ce rôle de Carlo, si Carlo est toujours là et en théorie il sera toujours là la saison prochaine, de trouver la solution. Mbappé, je sais qu'il est très perçu comme un génie. Moi je prédis qu'il aura du mal à s'adapter avec les blocs bas de la Liga.
Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord là-dessus.
Moi, je trouve qu'il a beaucoup, beaucoup progressé dans ce registre. Par rapport à notre, on le voit notamment en Ligue 1. En Ligue 1, le PSG affronte beaucoup d'équipes, bloc bas et on attend derrière. Je trouve qu'il a beaucoup, beaucoup progressé, moi, dans ce registre. Hein.
Pardon, je t'en prie.
Ouais, non, je disais complètement, je trouve aussi. Et surtout, c'est que, enfin, pour avoir suivi la Ligue 1 et la suivre encore pas mal, on oublie beaucoup que effectivement, ouais, Paris joue beaucoup de blocs bas, et surtout les défenseurs de Ligue 1, il y en a beaucoup qui sont assez rugueux, il y a des défenses assez costaudes, et Mbappé, ouais, a beaucoup travaillé dans ce registre-là, et même s'il marque un peu moins cette saison, il crée plus de différences, je trouve, que certaines saisons précédentes. Donc sur ça, ouais, je me fais pas trop de soucis pour la Liga, par exemple.
Ok, on va finir sur une question de Paz tout à l'heure qui posait une question sur le salary cap. Alors, je sais plus exactement comment la question a été formulée. Comment ça fonctionne en Liga le salary cap? J'ai pas trop compris. On peut avoir des gros salaires dans le même club. Le salary cap en Liga, je parle sous votre contrôle si vous avez l'info, mais il me semble que c'est régi par la Liga et grosso modo Les clubs budgétisent leur saison à venir et en fonction des résultats attendus, les clubs ont pour obligation, enfin ouais, de ne pas dépasser 70% de masse salariale du chiffre d'affaires. Donc
C'est ça, ouais.
si le chiffre d'affaires est de 100 millions d'euros, tu peux allouer max 70 millions d'euros pour tes joueurs. Enfin, en sachant que la masse salariale, ça englobe vraiment tout, hein. C'est pas juste les joueurs, hein. C'est aussi le staff, c'est aussi l'équipe féminine, parmi les jeunes aussi. Enfin, c'est la masse salariale, pardon, ça comprend vraiment tout. Donc voilà, en gros, c'est 70% à ne pas dépasser. Le Real est vraiment large actuellement par rapport à ça. Je sais plus les chiffres, mais je crois qu'on avait quasiment un capital libre de 150-200 millions d'euros de marge. Hein. Donc le Real est très large. Il me semble que le Real pourrait sans aucun problème dès maintenant ajouter le gros salaire de Mbappé à 20-30 millions d'euros. Bon, plutôt 30 millions d'euros bruts de Mbappé et également celui de Haaland. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas expert, mais le Real me semble très large. En tout cas, les chiffres qui étaient sortis dernièrement montrent que le Real est très large. Et d'ailleurs, Tebas l'avait confirmé, hein. Enfin, il l'a même confirmé plusieurs fois. Le Real est capable de faire Mbappé et Haaland financièrement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour faire un parallèle avec le Barça, la masse salariale du Barça était de 110%. Voilà, ce qui explique un peu pourquoi ce club est autant dans la merde et cherche par tous les moyens possibles de réduire sa masse salariale, soit en faisant des prolongations longue durée pour alléger le salaire sur une année d'un joueur. Enfin, bref, c'est. Voilà. Le Real est donc large à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Parfait, on va s'arrêter là-dessus. Merci, merci Axel, merci Bilal surtout d'être venu en renfort pour remplacer notre bon vieux Rota forfait de dernière minute.
Avec plaisir.
J'espère que ça a été cool pour toi.
J'espère que les auditeurs ont apprécié mon expertise et vous également.
Bah, écoute, on a.
Merci
Bon,
beaucoup.
j'ai pas le temps de lancer un sondage, mais sinon j'aurais bien demandé. Bilal a-t-il été concluant, oui ou non? On devrait juger là-dessus.
Faites preuve de mansuétude dans le chat, s'il vous plaît, avec moi. Merci beaucoup.
Ouais, je pense que c'est un public plutôt clément.
Je suis d'accord.
T'as pas d'inquiétude à te faire. Parfait. Merci Bilal, merci Axel, merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir interagi comme d'habitude avec nous. Bonne soirée à tous, bonne semaine, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao!
à tout le monde, merci à vous.